depuis quelques semaines, quelques mois, on va dire, on parle autour des... On explore le royaume de Dieu à travers les paraboles. Et personnellement, je connaissais cette parabole des 10 vierges. Je la connaissais, je savais que c'était important, mais il y a tellement d'enseignements à tirer de cette parabole sur le royaume. C'est pour ça que je vais continuer ce matin. Il y a un mot qui est comme un leitmotiv qui alimente deux chapitres de Matthieu 24 et Matthieu 25. Justement, quand Jésus était assis avec les disciples sur le mont des Oliviers et qui répondait à leurs questions sur la fin des temps, sur son retour. Et ce mot qui vient comme un leitmotiv, c'est « veillez, prenez garde, tenez-vous prêts ». C'est pour ça le titre de ce message ce matin, ce message. C'est déjà l'heure de nous réveiller de notre sommeil. Je n'ai pas fait exprès, c'est une coïncidence du Saint-Esprit. On a perdu une heure de sommeil. Le Seigneur nous réveille ce matin. Amen. Bon, je suis le seul à être d'accord avec moi-même. C'est déjà l'heure de nous réveiller. Il y a 13 versets dans cette parabole, de Matthieu 25 jusqu'au de 1 à 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, sortirent à la rencontre de l'époux. Là, il y a quelque chose de très... Ça nous prépare ce que ça veut dire. Il y a une rencontre avec l'époux, on est dans une période de fiançailles, il y a les noces qui se préparent, et il y a des lampes, il y a des gens qui se préparent, des jeunes, des vierges avec des lampes. Ça veut dire quoi tout ça? Le Seigneur se sert donc dans cette parabole d'une coutume orientale lors des noces, la préparation des noces qui s'approche. On est dans la partie finale de la préparation des noces. En Orient, on arrive la nuit, on va tenir des torches, des flambeaux, en attendant l'époux qui arrive pour rentrer avec lui et éclairer son visage avec le chemin, avec les lampes qu'on a, avec les torches. Alors, au coutume, c'est les compagnes d'un époux qui guettaient pendant la nuit son arrivée. Là, on voit cette notion d'attendre, de veiller, de guetter. Et pourquoi ils attendent? Afin de pouvoir entrer avec lui, muni de flambeaux, dans la chambre nuptiale. Et pour nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement pour illustrer notre position actuelle et surtout la position de ceux qui l'attendent. Est-ce qu'il y en a qui attendent le Seigneur ce matin? On en a parlé même. Pour être, si on l'attend, c'est pour être introduit par lui dans la salle des noces et pour participer aux noces de l'agneau. Et par cette parabole, donc, Jésus nous enseigne l'importance de la place que son retour... Et ça, c'est la clé du message ce matin, l'importance de la place de son retour qu'il doit avoir dans nos cœurs. J'ai mis Sainte-Seine parce que vous savez, quand on prend la Sainte-Seine, l'apôtre Paul dit « Car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous vous rappelez de ma mort et jusqu'à ce qu'il vienne. » Je dirais, à chaque fois qu'on prend le repas du Seigneur, on va réfléchir « Est-ce que je l'attends ?» Est-ce que j'ai cette espérance qui va revenir? On va avancer dans cette parabole. 5 d'entre elles étaient folles, entre parenthèses, ça veut dire étourdies, imprudentes. Dans des traductions en arabe, c'est ignorantes des choses. Et 5 étaient sages, prévoyantes, on va dire saintes, entre guillemets. Ça veut dire quoi tout ça? Cette parabole concerne toute la chrétienté, qu'elle soit vraie ou fausse. Est-ce que vous savez ce matin qu'il y a des vrais chrétiens et des faux chrétiens? Bon, il y a une différence entre chrétienté et christianisme. N'est-ce pas? Et dans cette parabole, l'état moral, on parle de l'état moral de la chrétienté en général qui est décrit au moment de la venue de Christ. Et on est dans ces temps-là. On ne cesse que de parler. Et Jésus essaie de dire comment ça va être l'état de la chrétienté en général. Écoutez, tout vrai ministère, tout vrai service pour le Seigneur est accompli en vue dans l'objectif de ce grand et glorieux événement qui est la venue du Seigneur. Si je fais des choses pour Dieu sans que ça soit avec cet objectif-là, ce n'est pas pour Dieu. Il faut toujours ayez en esprit, c'est au retour du Seigneur, si je fais quelque chose. Il a dit une phrase, Jérémie, tout à l'heure, l'instant T, ça va déterminer le temps de l'éternité. Donc, il y a un lien entre l'instant T et le retour pour être dans l'éternité. Dans Matthieu 25, 12, c'est presque les derniers versets de la parabole. Mais il répondit, c'est Jésus qui dit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » J'en ai parlé la semaine dernière. Pourquoi Jésus dit « Je ne vous connais pas » Parce qu'il y en a qui ont vécu avec cet objectif, qu'ils ont ignoré cet objectif ou cette perspective de retour du Seigneur. Ils ont vécu à leur guise, comme on dit. Et quand Jésus leur dit « Je ne vous connais pas », c'était le message de la dernière fois. C'est comme si Jésus leur disait « Je ne vois pas en vous la vie, ma vie. Je ne vois pas en vous la preuve que vous aimez mon nom et vous détournez du mal. Je ne vois pas en vous les marques de fidélité envers moi. » Voilà, ça doit être l'instant T, comme tu as dit, Jérémie. Vous n'êtes pas à moi. C'est ce que Jésus était en train de dire. Et la porte était fermée. Ils n'étaient pas entrés dans la salle des noces. Et il y a un rapport avec le retour de Jésus et la foi des chrétiens. Déjà, dès le début, on parle de la foi vivante des Thessaloniciens. Vous savez, quand on va voir dans la parole de Dieu, surtout le Nouveau Testament, où est-ce qu'on parle le plus du retour du Seigneur, c'est bien sûr dans l'Apocalypse et surtout dans les épîtres aux Thessaloniciens. Alors pourquoi? En sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Déjà, la réputation de la foi des gens de Thessalonique, c'était un modèle. Non seulement, en effet, pourquoi c'est un modèle? Parce que la parole du Seigneur a retenti de chez vous, dans la Macédoine et dans l'Achaïe. Ils étaient des évangélistes, étaient des ambassadeurs de Christ. Mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. C'est-à-dire, dans la région, on faisait que ça, dire « Mais qu'est-ce qu'ils ont ces gens-là? On va aller voir qu'est-ce qui sort de chez eux. » Et donc, ils étaient quand même ambassadeurs. Ils avaient une excellente mise en lumière de la personne de l'époux. Parce qu'ils aimaient Jésus. Et pourquoi? Parce que tout simplement, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons auprès de vous et comment, écoutez bien, vous vous êtes convertis à Dieu. Il y a déjà converti à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Le Dieu vivant, parce que les idoles, c'est des statues, c'est pas vivant, et vrai, c'est le seul vrai Dieu réel. Et pourquoi? Pas seulement pour ça, écoutez bien, la foi ne s'arrêtait pas à cela, et continue, et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir, parce qu'il y a un jour de colère à venir. Donc la foi des Thessaloniciens, dès le commencement de l'Église, était portée sur le témoignage dire des choses à propos de Dieu, le seul vrai Dieu, et surtout dire qu'il revient bientôt. D'ailleurs, il croyait qu'il allait revenir juste quelques années après. Donc le christianisme vital se caractérisait donc au commencement par l'attente vivante du retour de Christ. Et après, on ne parlait plus de ça. On continue. Donc les folles, en prenant leur lampe, ne prirent pas d'huile avec elles. Donc là, on parle des lampes. On va voir ce que c'est les lampes. Et ils ne prirent pas d'huile avec elles. Et la différence avec les sages, ils prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Ça veut dire qu'il y a une catégorie de personnes qui sont parties avec les lampes et l'huile qu'il y a dans les lampes, et une autre, la même chose, mais en plus, ils avaient une jerrycan d'huile à côté. Dès que l'huile manquait, ils pouvaient alimenter. C'était la différence principale. Alors, ça veut dire quoi tout ça ? La lampe, c'est l'image de la profession chrétienne. Je témoigne de Christ. Je suis croyant. Je connais Jésus. Et l'huile est l'image, comme vous le savez, du Saint-Esprit, qui est la puissance de la vie divine. D'où l'importance d'avoir une provision d'huile pour bien se préparer à la rencontre du Seigneur. Si on voit la parabole et ce qu'il a dit, ça veut dire c'est dans la nuit, on ne sait pas l'heure où l'époux va arriver, on doit avoir des lampes et assez d'huile, parce que s'il tarde, n'est-ce pas, pour qu'on puisse mettre de l'huile. Donc c'est important d'avoir une provision d'huile dans notre vie. Et dans Éphésiens 5, 18, on peut dire, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'esprit. Soyez au contraire continuellement en train d'être rempli de l'esprit. C'est comme ça qu'on peut avoir des provisions d'huile. Alors, c'est quoi les vases ? Les vases représentent les cœurs reconnaissants, ceux qui laissent l'amour de Jésus transformer leur caractère. Donc, il y a cette action de l'huile dans les lampes, l'action de Saint-Esprit dans nos vies. Ils ont un cœur malléable et réceptif aux exhortations de l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, comme l'apôtre Paul le dit dans ses épîtres, marchez par l'Esprit et soyez conduits par l'Esprit de Dieu. Et comme ça, l'Esprit nous transforme à l'image de Christ. Alors, c'est quoi avoir des provisions d'huile dans les vases ? C'est tout simplement maintenir sa lampe allumée. Parce qu'il y a des provisions d'huile, et toujours être dans les témoignages et surtout dans l'attente du Christ qui va apparaître pour rentrer avec lui dans la salle des noces. C'est tout simplement une vie divine par l'action du Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul le dit, ô Thessaloniciens même, n'éteignez pas l'Esprit de Dieu, tout simplement, puisque c'est l'Esprit qui vous a donné cette foi, n'éteignez pas l'Esprit. Alors, cette vie puissante par le Saint-Esprit, c'est simplement ce qui, j'ai parlé au début de Acte 1, il y a Acte 1, 8, vous recevez une puissance avant que le Seigneur soit élevé. Il dit, attendez, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, etc. Si vous voulez être une lampe avec de l'huile, des provisions d'huile, vous attendez, vous ne faites pas ça avant que le Saint-Esprit, la puissance, vienne sur vous. Sinon, ce n'est plus un témoignage pour Christ. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. L'importance de cette vie avec et par le Saint-Esprit, d'avoir cette provision de l'huile. Ce qui donne sa valeur et sa force à la profession chrétienne, c'est la vie de Dieu qui l'accompagne par le Saint-Esprit. Si je dis je suis croyant et je n'ai pas le Saint-Esprit, c'est que comme certains disent, « Oh, je suis croyant mais pas pratiquant. » Je ne pratique pas. Ça veut dire quoi, pratiquant ? Alors, là, c'est un point très important du message. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Aussi bien les folles et les sages. Et pourquoi ils s'assoupirent? Pourquoi on s'endort? Dans cette parabole, vous l'avez compris, pourquoi? Comme l'époux tardait. Comme Jésus, on n'arrête pas de dire, il revient et il tarde. Après, on s'est dit, bon, ben, il reviendra un jour, je vais faire ma vie. Donc, on perd cet objectif et on commence à tourner, n'est-ce pas, le visage à autre chose. Pendant le sommeil, on peut perdre la connaissance des choses au niveau spirituel quant à la vérité de notre appel céleste et de notre espérance. Le sommeil spirituel devient un danger qui conduit à la paresse. On voit ça dans Proverbes 6, 10 à 11. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, c'est pas grave, allez, après je me remets, mais un peu croiser les mains pour dormir, et qu'est-ce qui se passe? Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en arbre. C'est-à-dire, à chaque fois on dit, voilà, bon, Jésus ne revient pas, mais alors on tourne, on est dans le sommeil, on est dans l'assoupissement, et puis tout d'un coup, quand il revient, on n'est pas prêt. Comme un voleur ou comme un rôdeur qui arrive. Qu'est-ce que la conséquence de tout cela? La disette et la pauvreté spirituelle. D'où l'importance de veiller à demeurer ferme dans le Seigneur, dans notre vie de tous les jours. Philippiens 2, 12a, c'est ce que je comprends dans cette partie du verset. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte des tremblements. Travaillez à votre salut, c'est-à-dire veillez, veillez afin de ne pas vous assoupir, veillez afin de ne pas vous endormir. Une fois la première fraîcheur du christianisme disparue, comme on a vu pour les Thessaloniciens, l'Église oublia vite le retour de l'époux, cette dimension-là. Et quelle est la conséquence de cela? Où est, il y a pas mal de chrétiens dans l'épître de Pierre, vous voyez ça, on disait à Pierre, mais où est la promesse de son avènement? On a dit qu'il va revenir, il n'est pas là. Et vous connaissez la réponse de Pierre, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le feu de la foi, quand on a ce feu au début, risque, si l'on n'y veille pas jour après jour, de voir sa flamme baisser jusqu'à s'éteindre et s'attiédir jusqu'à se refroidir. Ainsi, le retard de l'époux représente un contretemps qui met notre foi à rude épreuve. C'est comme si le Seigneur fait exprès. Il nous met à l'épreuve. Ok, je vais tarder encore. Je vais voir si tu tiens bon. Si l'instant T de toi est toujours avec moi, avec cette perspective que je vienne, si tu continues dans la sanctification, si tu continues à vivre une vie qui me plaît. Là, l'exemple de Jésus à Gethsémané. Vous connaissez, Jésus arrive à ce jardin juste avant la crucifixion. Il prend, on voit dans le texte, dans le contexte, les 11 disciples. Et après, il prend de ces 11, 3 disciples qui sont avec lui un peu plus proches, Pierre, Jacques et Jean. Et il leur dit, asseyez-vous ici. Et il leur demande de prier avec lui. Et à un moment donné, il revient, il voit qu'ils sont endormis. Et il va vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller une heure avec moi. Il n'a pas dit veiller pour moi, mais il a dit avec moi. Donc, ils le connaissaient pourtant, mais ils n'ont pas pu. Mais ce n'était pas un reproche. Après, il a dit le pourquoi et comment. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Parce que l'ennemi, il est là, il est rôde. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Parce que c'est une question spirituelle de veiller en tant que chrétien. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances célestes mauvaises dans les lieux célestes qui cherchent à nous faire tomber dans la tentation et nous détourner de... Donc, l'esprit est bien disposé, c'est-à-dire la partie esprit de notre être doit être continuellement activée et reliée à l'esprit de Dieu pour pouvoir bien veiller. Sinon, c'est la chair qui prend le dessus. Qu'est-ce qu'on peut tirer de cela? Il faut une énergie constante pour ne pas s'endormir. Vous êtes d'accord? Des fois, hop, hop, il faut quelque chose. Parce que ce n'est pas naturel d'être éveillé pendant la nuit. Hein? On est là pour dormir, n'est-ce pas? La nuit. Mais pour veiller et rester éveillé, écoutez bien, il faut qu'un objet captive le cœur et les pensées. Alors cet objet, ou c'est quelque chose qui nous captive dans nos cœurs, dans nos pensées, ça peut être ou Christ ou le monde. Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est la famille, les loisirs, le sport, le millefeuille, le gâteau de millefeuille, j'en sais rien. En premier, où c'est Christ qui nous captive? Cherchez d'abord, en premier, le royaume de Dieu dans notre vie de tous les jours. Fais de l'Éternel tes délices, il donnera ce que ton cœur désire. En premier, ce qui doit animer et captiver, c'est vraiment le mot, nos pensées, surtout quand on veut veiller et prier, ça doit être avant tout Christ, la personne de Christ, la venue de Christ. On voit bien l'apôtre Paul qui a été tellement captivé par cet amour, par cette rencontre avec Christ. L'amour de Christ me presse. Depuis cette rencontre avec Christ, il ne fait rien qui soit en dehors de cela. Si cet objet donc, qui nous captive, il n'est pas Christ, on s'endort vite. Vous l'avez compris. Et ben, je vous donne une clé pour que cette une pensée qui nous captive, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Tu as parlé de Tite de 11, c'est en attendant l'espérance de retour. Tout est lié. Si je n'ai pas cette pensée qui rôde dans mon cœur, je ne peux pas veiller et prier. Dans Romains 12, 11, l'apôtre Paul nous dit « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. » Ce n'est pas « soyez fervents de la chair » ou « soyez fervents d'esprit. » Servez le Seigneur. Tout cela, c'est pour, enfin, en finalité, servir le Seigneur. Si je veux servir le Seigneur, je n'ai pas le zèle et je ne suis pas fervent d'esprit, je ne peux pas le servir comme il veut, je ne peux pas veiller et attendre. On avance dans cette parabole. Au milieu de la nuit, ça veut dire au moment où on ne l'attend pas. Au moment de la nuit, on cria. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Et c'est un cri ce matin qu'on doit entendre, nous, ce matin, au tabernacle. Voici l'époux, allons à sa rencontre. Voici l'époux, allons à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges qui étaient endormies se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. On va vérifier s'il y a de l'huile ou pas. Mais là, il y a quelque chose d'intéressant. Ils disent, sortez à sa rencontre. Vous savez, la vie chrétienne est faite de sortir de quelque chose, de quitter quelque chose. Vous savez, au début, le verset 1, c'est marqué, on sort pour aller à la rencontre de l'époux. Et là, ils sont endormis, il faut encore sortir. De nouveau, il faut sortir. Non plus du judaïsme et du paganisme comme au commencement. Écoutez bien, c'est l'appel de ce matin, mais de l'état de sommeil dans lequel la chrétienté tout entière était tombée, faute de vigilance. Je ne vise personne, je ne me vise pas aussi à moi, mais attention, soyons sensibles à ce cri qui arrive, voici l'époux qui arrive. Il faut qu'on soit prêt pour aller à sa rencontre. Ce cri a pour effet de nous aider à redevenir ou devenir une torche, un flambeau lumineux pour accueillir l'époux. Sinon, comme c'est dans la nuit. Écoutez bien, nous allons tous nous réveiller, mais seuls les vrais adorateurs pourront poursuivre leur route jusque dans la salle des noces. Les vrais adorateurs en esprit et en vérité, comme Jésus l'a dit à la Samaritaine. Tout le monde est réveillé, les sages et les folles, mais il n'y a que les sages qui sont rentrés dans la table des noces. Le Saint-Esprit, écoutez bien, va réveiller les consciences de la proximité immédiate du retour de Jésus-Christ. Ça, c'est en général. C'est la mission du Saint-Esprit, il te convainc de péché, de justice et de jugement. Mais aussi, le Saint-Esprit, si on a le Saint-Esprit, si on marche par l'Esprit, si on est conduit par l'Esprit, le Saint-Esprit va secouer les esprits des disciples de Christ qui dorment, faute de pouvoir veiller et attendre. D'où l'importance d'avoir cette provision d'huile, cette vie divine par le Saint-Esprit. Un cœur assoupi et une âme endormie risquent de manquer l'heure de rendez-vous avec Dieu. Est-ce que vous avez reçu l'invitation et la date? Il n'y a pas de date, mais un cœur assoupi et une âme endormie risquent de manquer l'heure de rendez-vous avec Dieu. Dans Romains 13, 12, la nuit est avancée, oui. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de lumière, parce que nous sommes des enfants de lumière. La nuit est avancée, le jour approche, le jour de retour. Qu'est-ce qu'il faut faire donc? Cet instant T dont tu as parlé, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui est pur. Se sanctifie, comme tu l'as dit, comme lui est saint. Si nos lampes ne brillent pas au moment de sa venue, nous ne pourrons pas entrer en noces avec lui. Encore une fois, veillons à ce que nous avons la provision d'huile pour que nos lampes continuent à briller et pour qu'à la rentrée de l'époux, je peux entrer et mettre en lumière l'époux lui-même. Magda, s'il te plaît. Là, c'est un exemple pour terminer. C'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui s'adresse ce matin au tabernacle. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Et quelles sont ces choses ? C'est Jésus qui dit, je suis le rejeton et la postérité de David, c'est-à-dire je suis le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, celui qui est, qui a été, qui viendra. Et surtout, je suis l'étoile brillante du matin. Quand on veille dans les nuits, les veilleurs, ils essayent d'attendre le jour qui arrive et le seul indice, le seul signe que le jour va arriver, ils voient cette étoile brillante. Ils disent, on est soulagés, le jour arrive. Et Jésus, dans notre vie, il est l'étoile brillante du matin. Si dans ma vie de tous les jours, je n'ai pas cette perspective que Jésus revient, qui est là pour nous, emmener avec lui dans l'éternité, comme l'étoile brillante qui annonce le jour, je ne peux pas veiller. Je ne peux pas, je m'endors et je suis dans l'assoupissement. Et vous savez que dans la Bible, la mort, l'endormissement, pardon, c'est une mort spirituellement parlant. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, Viens ce matin, celui qui entend, dise viens. S'il dit viens, c'est parce que je veille et je l'attends, parce qu'il est l'étoile brillante du matin. Je terminerai avec cette phrase. Bienheureux ceux qui veillent, ils attendent celui qui vient. Bienheureux ceux qui veillent, ils attendent celui qui vient. Amen. Prions une pause. Merci Seigneur notre Dieu qui ne cesse de nous rappeler ton amour, ta bonté, ta fidélité. Tu nous dis que tu reviens et tu ne reviens pas encore. Tu nous laisses ce temps pour nous préparer. Seigneur, que ce matin nous puissions être sensibles à ce cri. Voici l'époux qui arrive. Est-ce que je suis prêt? La venue de Christ est-elle mon espérance ce matin? C'est pour ça, c'est dans un des versets de Éphésiens. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Réveille-toi ce matin, toi qui dors. Toi qui es assoupi. Toi qui as quitté cette espérance et tu fais autre chose. Relève-toi d'entre les morts parce que tu es mort spirituellement. Et la conséquence, si tu te réveilles, est Christ t'éclairera. Et la lumière de Christ viendra à nouveau sur toi. Bien-aimés, n'ayons rien de commun avec les œuvres infructueuses des ténèbres. Parce que nous sommes des fils, des enfants, des fils et des filles, de lumière, les fils du jour. Et encore, l'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens, ne dormons pas comme les autres. Ce matin, ne dormons pas comme les autres, parce qu'il y en a qui dorment. Mais vous, vous êtes des enfants de lumière, des fils du jour, ne dormez pas comme les autres. Ne nous laissons pas absorber par les activités, les soucis, les inquiétudes. Il y en aura tous les jours. Mais ayons cette pensée captive dans nos cœurs. Christ revient bientôt. Christ revient bientôt. Maranatha. Séparons-nous de tout ce qui n'est pas à Christ. Sortons de tout cela, comme ça a été dit. Et la lumière de Christ, à nouveau, viendra sur nos vies. Et la lumière de Christ, et nous pouvons ainsi être des lampes, des flambeaux qui font briller la gloire de Christ. Alors, je ne sais pas si vous avez trouvé un chant. Je vous dis à nouveau, bien-aimés, bienheureux ceux qui veillent parce qu'ils attendent le Seigneur.